Honorable Abdoulaye Wilane, nous sommes aujourd'hui en Gambie. Vous parlez de la politique au niveau de la sous-région, surtout avec le départ de certains pays, le Niger, le Mali et le Burkina, de la CEDEAO. Quelle lecture faites-vous de cette situation qui prévaut actuellement au niveau de la CEDEAO?
D'abord, ces départs interviennent dans un contexte particulier, j'allais dire dans un contexte délicat. En réalité, le monde est pratiquement dans une situation comparable à une crise économique mondiale ou à un conflit mondial. Notre humanité fait face à des situations très délicates qui ont des répercussions dans nos pays en raison de notre histoire commune ou particulière, et en raison aussi de l'accroissement démographique et du nombre de jeunes que nous avons qui ont envie de s'épanouir et d'assumer pleinement leurs conditions de vie, leur dignité humaine. Cependant, que nos États font face à des difficultés imputables à la gouvernance dans chaque État, mais également à l'influence des phénomènes liés à la mondialisation à travers surtout le caractère pernicieux de ce que peut permettre l'intelligence artificielle à travers les réseaux sociaux. C'est pourquoi, pour le moment, nous parlons de départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso, mais certainement que ça ne se limitera pas à ces trois pays. Il suffit simplement de regarder ce que se passe sous nos yeux, de lire, d'interroger les actes politiques qui sont posés ça et là pour se dire qu'il y a un réel besoin d'adaptation partant de la situation délicate que nous vivons, qu'il faut considérer, qu'il faut traiter comme une opportunité. Pour cela, il faut simplement une volonté politique. Et c'est ce pourquoi je pense que l'indigence de la classe politique contemporaine doit nous préoccuper, parce que les dirigeants, pour l'essentiel, exploitent des positions ou des situations favorables pour postuler à des responsabilités politiques sans avoir le vécu préalable, sans avoir la formation antérieure. Au même moment, dans nos différents pays, qu'il s'agisse des forces de défense et de sécurité, pour ne pas dire simplement des militaires, des gendarmes ou des policiers, nous avons des hommes et des femmes, bref, en un mot, le capital humain, les ressources humaines dans nos différents pays sont de qualité telle que finalement, lorsque les gouvernants, lorsque les acteurs politiques échouent ou sont dans l'incapacité de faire un saut d'élévation pour se mettre à la hauteur des attentes et des intérêts supérieurs, il peut arriver qu'on les renverse. Moi, je pense que nous sommes là en train de réfléchir sur les impacts socio-économiques de ces retraits-là. Mais premièrement, pour que cela ne débouche pas sur la dislocation, la débandade, il faut que dans les pays qui sont encore dans l'espace CEDEAO, il y ait une réelle volonté politique de se donner les moyens de tenir debout et d'assumer tout ce que l'on faisait pendant qu'on était 15 pays. Deuxièmement, il faut que la CEDEAO est, dans une certaine mesure, lui au moins, fasse un effort de renforcement de notre intégration, de notre souveraineté nationale ouest-africaine, pour que nous puissions adopter une monnaie, puis des politiques publiques à même de nous garantir notre souveraineté et de forger les bases d'une intégration qui nous garantisse une longévité de nos espaces, de nos institutions communautaires. Je suis quelque peu pessimiste quand on voit la situation qui prévaut au Togo. Vous savez que le Togo est aujourd'hui dans une situation où, comme on l'a vu au Gabon, il y a des poussées, des brèches qui sont en train d'être ouvertes pour changer l'ordre des choses tel que connu depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Si vous allez au Bénin, le président actuel arrive au terme de ses deux mandats possibles. là aussi, il y a un vrai frémissement, il y a une sorte de surchauffe qui couvre sous l'apparence d'une stabilité et d'une paix ou d'une unité nationale. La même situation prévaut quelque peu en Guinée-Bissau, où le président, après avoir dissous l'Assemblée, arrive au terme de son mandat et personne ne voit un horizon clair, rassurant. Si vous y ajoutez les dernières nouvelles qui nous viennent, qui ne sont pas surprenantes parce qu'on le sentait venir, de Côte d'Ivoire, où le président Ouattara a 83 ans. Et je pense qu'il lui est arrivé même de demander aux Ivoiriens de son parti du RHDP d'avoir pitié de lui parce qu'il ne voudrait pas mourir au pouvoir. Il a envie d'avoir une vie après le pouvoir. Comme en donnant l'exemple d'Abdou Diouf, qui est un peu, quelque peu son aîné. Là aussi, voyez ce que se passe. Alors, si vous y ajoutez maintenant les enjeux qui se structurent autour des ressources énergétiques minières ou simplement du sous-sol, des ressources de notre sous-région, dans un contexte où la France a son influence qui se rétrécit, qui s'amoindrit, l'Europe accompagnant la France dans ses intérêts stratégiques de positionnement mondial a aussi ces problèmes-là. Voyez un peu les conséquences de ce qui transparaît dans les actes de gouvernance que pose le new Trump. Parce qu'il y a eu un ancien Trump et aujourd'hui il y a un new Trump. Vous voyez, avec les mesures douanières et les rivalités entre la Chine, les États-Unis, dans une certaine mesure, et d'autre part, la Chine, les rivalités entre les Amériques, le monde occidental en général, et la Russie, sans oublier la percée fulgurante des pays qu'on qualifie plus de dragons, mais qui sont des pays à civilisation arabo-islamique. Aller dans le Golfe, aller dans les Dubaï, voilà. Donc, nous, le monde, le maintient dans une situation très délicate. C'est pourquoi il faut aborder les choses avec délicatesse, mais pour que l'on puisse aborder ça avec délicatesse, il faut qu'on soit d'une dimension politique incontestable, mais qu'on puisse, en ce moment-là, explorer les voies qu'offre la diplomatie. En tout cas, moi, je suis jusqu'au bout déterminé à partager avec mes collègues de la CEDEAO d'ici que je passe de témoin à la nouvelle génération d'élus parlementaires du Sénégal qui vient d'être désigné. J'ai tenu à partager avec mes collègues cette lecture-là. Nous sommes dans une situation très délicate et j'ai parlé de tous les pays sans bien sûr oublier le pays dans lequel nous sommes. Ici, le président Barrot a fait deux mandats. Même s'il n'y a pas de limitation de mandat ici, il y a aussi une certaine situation d'intérêt qu'il faut surveiller. Et un pays comme le Sénégal, attention, là aussi, et c'est peut-être partagé par l'ensemble des pays de la sous-région, il peut y avoir un phénomène contagieux. Le Sénégal n'a jamais eu de ressources humaines de mauvaise qualité. Toute génération confondue, depuis l'indépendance, nous avons eu de très grands cadres et de très bons cadres. Nos soldats, nos gendarmes, nos policiers, bref, en un mot, les forces de défense et de sécurité du Sénégal, mais sont adulés, sont recherchés, sont sollicités partout à travers le monde. Alors si dans ce contexte-là, on voit le succès populaire dans les masses que des régimes ont au Mali, au Burkina, au Niger et même dans certaines mesures en Guinée, sans oublier les pays limitrophes qui nous entourent, il y a des raisons d'être très vigilant, d'être méfiant. Parce que de l'indépendance à nos jours, il n'y a pas eu encore d'interruption du cours démocratique du fait des corps habillés. Et à force de voir les actes qu'on pose ça et là, et la manière dont on les convoque en les menaçant, en ne leur garantissant pas la sécurité et la protection politique des différents régimes, demain, il peut y avoir des troubles qui, si on y prend garde, pour déboucher sur quelque chose qu'on n'aurait dû jamais connaître ou qu'on ne voudrait jamais connaître. Armée nation, oui, mais une armée républicaine. Mais pour qu'une armée soit républicaine, il faut que ceux qui incarnent la République à la faveur de leur combat politique, à la faveur des élections, soit à la hauteur du respect que ces forces de défense et de sécurité leur accordent. Donc, nous devons faire très attention, qu'on le veuille ou pas, partout en Afrique de l'Ouest, la situation économique, la situation sociale est très critique. Alors, donc, pour essayer de garder la stabilité et la paix, il faut rester humble, il faut dialoguer, il faut savoir identifier les priorités. Je termine en disant que l'on parle beaucoup de conséquences économiques, sociales et autres de ces différents retraits sans qu'on pose le problème des moyens. Je répète, si les trois pays qui sont partis ne sont pas suppléés, ne sont pas remplacés dans leur apport, dans leur cotisation, dans leur sacrifice pour faire fonctionner l'institution communautaire, il va de soi que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UEMOA, ces pays-là, ces organisations-là vont tanguer, vont marquer le pas, peut-être même vont échouer. Et croyez-moi, c'est quand même assez triste que ces échappées, ces divisions interviennent, alors que partout, de part et d'autre, on se bat au nom du panafricanisme. On veut une Afrique unie, on veut atteindre le pas d'une souveraineté monétaire, d'une souveraineté économique, d'une souveraineté alimentaire, mais voilà. Et qu'on ne se le cache pas. Sur le plan de la lutte, par exemple, contre le terrorisme, l'échange d'informations, l'apport des pays développés qui ont des satellites, qui ont des moyens technologiques énormes et qui sont en avance sur nous par rapport à l'intelligence artificielle. Mais fait qu'il ne peut pas y avoir d'indépendance totale. Il faut de l'interdépendance, de la complémentarité. Je rappelle à nos gouvernants du moment et à l'ensemble des acteurs politiques à travers l'Afrique, mais particulièrement au niveau de la CEDEAO, qu'il faut de l'humilité, mais également des convictions, ce qui veut dire un idéal. Et sur cette base-là, lorsque la situation est délicate, lorsque il y a des provocations, il faut rester zen, serein, pour les aborder, pour les adresser, pour les questionner, en vue de d'avoir des pistes d'intervention qui permettent de les juguler sans grand dommage. Et encore qu'il n'y a jamais eu de risque, il n'y a jamais de risque zéro.
On ne peut pas terminer cet entretien sans parler de votre vécu au niveau du Parlement de la CEDEAO. Certainement, vous vivez les derniers moments au niveau de cette institution. Si vous nous faisiez un bilan de votre parcours, de votre séjour, depuis que vous êtes là jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut...
J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup bonifié de relations humaines, d'expériences, de réflexions et même de connaissances physiques et humaine, j'allais dire sociologique ou sociale, de 15 pays que j'ai eu à visiter. Dans chacun de ces pays, j'ai des amis, des Ndiatiki, comme on dit chez nous, au Sénégal ou en Gambie ou au Mali, les Ndiatikiya. Donc, je n'ai aucun problème d'évolution et d'épanouissement dans l'espace. Je pense même que cette expérience va permettre d'être quelque peu consulté par ces pays, par des partis ou par des dirigeants que j'ai rencontrés, que j'ai connus dans cet espace. Mon expérience m'a permis également d'être plus modeste, j'allais dire plus humble, et plus humanitaire, plus humaniste. Et je compte mettre cela à profit pour, avec les jeunes avec lesquels je parle, parce que j'ai quand même 57 ans. Je viens de dépasser un demi-siècle de vie. Et je crois qu'à ce niveau-là, j'ai quelque chose à passer comme témoin à plus jeunes que moi. Toutefois, je ne pars pas parce que mon mandat est fini. Je pars parce que je devais rester jusqu'en 2028. Mais je pars parce que la tradition, la coutume, voudrait que quand on n'est plus parlementaire en activité dans son pays, on soit remplacé par son état. Et c'est ça qui fait que donc je pars, mais demain la CEDEAO peut me consulter, peut me confier des réflexions. Je peux également être sollicité par même la commission au-delà du Parlement. Et cette expérience-là est une expérience riche. Je me souviens quand la crise menaçait le conflit, les incompréhensions couvées en Gambie à propos des trieuses, nous étions là et on avait rencontré toute la classe politique. On leur avait parlé les yeux dans les yeux. On leur avait dit ce que nous pensions. Je me souviens que 2 ans après mon entrée, parce que j'ai fait 3 mandats à la CEDEAO, 2 ans après mon premier mandat sous Sicelo, je posais le problème du retrait de la Mauritanie par rapport à certains pays dont je soupçonnais que les dirigeants et les peuples ne comprenaient pas trop ce qui se faisait dans la CEDEAO, dans le Parlement, dans la conférence de dans la commission. Et je leur disais, attention, il faut aller vers la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des États. Et je donnais l'exemple de l'Union européenne en disant que l'Union européenne, un seul visa vous est donné par un pays membre de l'Union européenne, vous circulez librement là-bas. Ici, il y a encore des problèmes de libre circulation des biens des personnes. Et croyez-moi, entre cette époque-là et aujourd'hui, sous le mandat de Moustapha Sello, nous avons tellement travaillé qu'au niveau des frontières, il y a eu de grandes actions qui ont été menées en termes d'investissement, mais en termes de sensibilisation, et les barrières sautent. La seule chose qui survit comme difficulté, c'est la mobilisation de ressources. Or, la volonté politique ne va nulle part sans la volonté économique et financière, sans les ressources, sans les moyens. Parce que mission égale moyens, comme disait Senghor. Et donc, c'est ça que je retiens globalement. J'aurai l'occasion plus amplement de dire, d'écrire sur ce que je retiens de mon mandat de parlementaire de la CEDEAO. Et je continue à être à la disposition des clubs CEDEAO, je continue à être à la disposition des parlementaires de la CEDEAO, je continue à être à la disposition de la commission, parce que je peux très modestement donner ma part de contribution. Enfin, je ne termine pas sans signaler que je suis socialiste et je ne manque pas d'ambition dans mon parti, et qui doit se rajeunir, qui doit s'adapter et qui doit se repositionner. Et dans ce cadre-là, le Parti Socialiste dispose d'un réseau de partenaires en Afrique de l'Ouest, en Afrique tout court avec l'Inter-African Socialiste et dans le monde. Et je pense que de ce point de vue-là, les idées n'ayant pas de frontières, avec le décloisement provoqué par Internet et les réseaux sociaux, vous verrez comment est-ce que le nouveau village va
se... C'est de se tromper que vous êtes candidat pour diriger le Parti Socialiste.
Mais mon cher Mpap Sayer, je n'ai jamais caché des ambitions. Parce que pour moi, lorsque vous avez du pain de singe, vous voyez donc le fruit. Tant que vous ne le cassez pas pour extraire les graines et la poudre qui est à l'intérieur, le lait ne sera jamais bu ou en tout cas apprécié. Donc je n'ai jamais caché. Je ne suis pas entré en politique en tant que suiviste. Je suis entré en politique élève, étudiant, leader. Puis leader de cadre. Et ensuite, j'ai été mis au devant de la scène, ce qui donne l'impression que je suis d'un certain âge, où je suis... J'ai 57 ans, que je répète. Ceux qui sont aux responsabilités, qui incarnent l'Afrique, les partis d'opposition, même au Sénégal, sont de ma génération, et je ne pense pas avoir un mauvais parcours, je ne pense pas avoir un mauvais pedigré ou en tout cas une mauvaise image. Je ne me proclame pas ceci ou cela, mais mes camarades de parti savent ce dont je suis capable. Le moment venu, j'indiquerai ce que je pense. En tout cas, il y a un débat qui agite mon parti, qui traverse certaines instances, une volonté d'aller vers un rajeunissement. Je ne suis pas pour le jeunisme, je suis pour une symbiose générationnelle, comme disait Tanor. Et je suis également pour de l'intelligence dans la mise en œuvre des mécanismes, des schémas pour aller avec délicatesse et intelligence vers les rendez-vous qui se profilent à l'horizon, pour un parti qui promeuve la compétition interne, qui promeuve appel à candidature à chaque poste de secrétaire général ou de candidat à la candidature. Donc j'ai des idées sur lesquelles je discute avec des camarades, quel que soit leur bord. Et moi, je suis un homme, je ne dirais pas iconoclaste, mais je suis un homme sans frontières, sans barrières. Bien sûr, oui, sauf ce que la morale et l'éthique ne recommandent pas. Je ne suis pas un homme qui transhume ni qui change de cap ou de selon ses intérêts. Je suis conscient de ce qui nous interpelle dans la situation actuelle. Je me réclame de Senghor, de Diouf et de Tanor, et je suis, tout en étant moi-même, tout en étant l'homme de sa génération, de son temps. Et c'est le moment venu que les socialistes eux-mêmes choisiront parmi nous quelqu'un qui sait être un leader, qui sait valoriser les autres, tout en laissant les autres le valoriser. Voilà comment est-ce que je vois les choses. Je suis pour tous les débats, je suis sans tabou, disponible. J'entends ce que les gens évoquent, je les écoute, je discute avec eux pour approfondir, je consulte d'autres et les points sur lesquels nous serons d'accord seront mis en œuvre ensemble. Maintenant, les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, puisque la vie n'est jamais achevée, nous les mettrons en perspective pour voir comment les aborder. En tout cas, je rends hommage à tous les sages du parti, d'abord, ensuite à nos aînés qui sont encore avec nous en activité, en mission à la tête du parti dans toutes les instances, mais les plus méritants, c'est les militants à la base. Tanor disait, Ousmane Tanor, peut-être que Tanor sera de Diouf ou de Senghor, disait qu'en démocratie, le plus méritant, le plus à respecter, c'est le citoyen électeur ou le militant de parti, le militant de base. Parce qu'il est facile d'être leader, il est facile d'être porté à la tête d'un pays, mais celui qui a les mêmes droits, les mêmes prétentions, peut-être même souvent qui est mieux formé et mieux outillé que vous, mais qui n'a pas la chance d'être devant, celui-là a quand même beaucoup de mérite. Donc voilà ce que je voulais, ce que je peux dire de votre question, en espérant que, bien sûr, les ambitions qui m'ont amené en politique et que je n'ai jamais cachées seront bénies par le Seigneur et seront approuvées par les Sénégalais en passant par mes camarades socialistes. Mais je précise, si je dois être à la tête du Parti socialiste, si mes camarades qui me le demandent et qui m'y poussent souhaitent que je sois à la tête du parti, il faut qu'ils soient d'accord avec moi qu'il faut d'abord réconcilier les socialistes à l'intérieur du parti. Ensuite, s'ouvrir courageusement et généreusement vers ceux dont les partis sont issus de la roche-mère. Enfin, et c'est le plus peut-être important, comment rendre pluriel cette famille socialiste, cette gauche, en se voulant aux partis qui sont de tradition social-démocrate, qui sont de gauche, et ensemble, si nous pouvons faire un grand Big Bang, un grand parti d'obéissance social-démocrate ou socialiste, ben ça, ce serait une bonne chose. Ça, nous ne pouvons le faire qu'en dépassant les querelles du passé, les incompréhensions du passé, sans tenir compte de ce qu'il faut un tout pour faire un monde. Voilà, moi, le nouveau Wilan, si vous voulez, si, parce que les gens parlent très souvent de nouveau Wilan, parce qu'ils sont restés pendant un an sans m'entendre. Oui, ils ont raison. Ils ont raison parce que moi, je vais être réaliste, je vais être objectif, je vais être sincère, parce que je me veux un bon musulman. En 2024, avril, on a élu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans les conditions que l'on sait. De 2024 à 2025, il n'avait pas un budget adopté sur la base de l'orientation qui donnait des politiques publiques. Ce n'est que maintenant, depuis le 1er janvier 2025, que son régime a un budget voté à l'Assemblée générale dans le cadre des orientations qu'il a données avec son gouvernement. Mais il faut le juger aux actes et sur pièce. Le contraire aurait été perçu comme étant un procès en sorcellerie ou un procès en intention. Alors, moi, je ne suis pas de ce genre-là. Maintenant qu'ils sont aux responsabilités, on les jugera sur pièce parce que le pouvoir est plus la responsabilité. Nous, on est dans l'opposition. Nous ne fermons pas les yeux. Nous ne nous taisons pas sur les vrais problèmes du pays, mais nous les poserons en fonction de ce qu'ils indiqueront. Et au bout de un an, les Sénégalais, comme on dit, Tchinbounere Ner Bakhekhen, sauront si ce que ces gens-là élaborent, Nougoumi, est-ce que ça laisse présager d'une bonne combinaison. Sinon, nous allons également profiter de la perspective du dialogue politique pour dire de manière constructive et courageusement, avec force argument, au lieu indiqué, ce que nous pensons. L'Assemblée nationale, oui, elle est liée par l'extérieur du débat démocratique. Mais l'Assemblée nationale n'a pas seulement l'apanage du dialogue politique national. Les partis qui ne sont pas là-bas, les Sénégalais qui n'étaient même pas en âge de voter, etc., etc. Tous ces gens-là, on doit profiter du dialogue politique pour les écouter. Premièrement, le président République dit qu'il faut changer la Constitution. Pourquoi faire ? en quels termes on doit l'échanger, dans quelle orientation, dans quel objectif. Est-ce que c'est pour changer la nature du régime? Est-ce que c'est pour changer la façon de faire de la politique? Est-ce que c'est pour changer des choses sur lesquelles il faut absolument débattre, parce qu'en définitive, il s'agit de convaincre sans contraindre, parce que s'ils voulaient contraindre, ils ont une majorité mécanique à l'Assemblée, et ils veulent quelque chose, la loi leur le permet, parce que c'est eux qui légifèrent. Alors, à partir du moment où lui, destinataire de renseignements et des informations, convie à un dialogue, je dis sans arrière-pensée, allons-y. Et j'invite tous les leaders d'opinion, les chefs religieux, du clergé catholique à travers Mgr André Gueye, qui, sur la base de la sagesse et de l'expérience de Mgr Benjamin Ndiaye et de Mgr Théodore Adrien Sarr, discutera avec l'ensemble des évêques et les curés pour accompagner et aider, faciliter les califes de Touba, de Léona Niassène, de Merina Baye, de Tiwawon, de Ndiassane, le patronat, les syndicalistes. Tous, ils doivent s'impliquer à côté du médiateur général, du facilitateur général du dialogue politique, du dialogue national, pour que nous puissions aller vers des consensus. 5 ans, c'est très court. 5 ans, c'est très court. Il est difficile d'être élu. Et puis, en 5 ans, de définir des politiques publiques, de les mettre en œuvre, de trouver les moyens et de faire des bilans. Voilà. Donc, ça revient à la délicatesse de la situation du monde, de l'Afrique. Donc, il faut qu'on revoie nos rapports avec le temps, notre rapport avec la gouvernance, notre rapport avec les deniers publics, notre rapport avec même les idées. Et voilà des questions sur lesquelles je réfléchis beaucoup en tant que leader. Et dernier souhait que je vais vous formuler, je suis déterminé, j'ai décidé de rompre avec le silence. Je pense que c'est le moment de parler et d'être disponible avec la presse. Mais faudrait-il que ceux qui nous interviewent soient aussi bien formés, aussi bien cultivés, aussi bien connaisseurs des idées que nous agitons, nous brassons, que nous-mêmes nous portons, que les idées que nos adversaires brassent. C'est à ce moment-là qu'on va avoir des entretiens enrichis. Mais tel a dit, qu'est-ce que tu en penses? Ça, moi, si c'est ça, je ne suis pas prêt à aller dans les médias. Parce que quand même, il faut apprendre de ce que l'on a vécu. Et c'est pourquoi j'ai accepté, sur la base de la profondeur des questions que vous me posez, parce que je vous connais, vous me connaissez, vous nous avez suivis, vous nous suivez au Sénégal, vous nous suivez dans le Pastoris, vous nous suivez également à l'Assemblée, vous nous suivez au Parlement de la CEDEAO quand vous nous interrogez, mais c'est sûr que les questions ne peuvent pas être superficielles ou légères.